Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séances Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
À l'occasion de la rétrospective intégrale à la Cinémathèque française du 5 au 29 avril et de la ressortie le 19 avril dans les salles de Casque d'or, Le Trou et Touchez pas au Grisby, Antoine, vous revenez sur la carrière de Monsieur Jacques Becker.
Alors oui, ce qui est d'abord extraordinaire chez Jacques Becker, c'est que certains éléments très personnels de son œuvre puisent leur origine dès son enfance. Il y a beaucoup de petits cailloux comme ça. Par exemple, le père de Jacques Becker est chef d'entreprise, mais sa mère, qui est d'origine anglaise, tient une maison de couture à Paris, rue Cambon, tout près de chez Chanel. Et cette connaissance du milieu inspirera en 44 à Becker Falbala, l'un des plus beaux films sur la haute couture, un film d'ailleurs tellement bon que Jean-Paul Gaultier affirme que c'est en le voyant qu'il a eu la vocation de couturier. La famille Becker fréquente Paul Cézanne, le fils du peintre, et c'est là que Becker va rencontrer Jean Renoir en 1921. Cette rencontre va jouer un rôle essentiel dans la vie de cinéaste de Jacques Becker, mais Renoir, c'est aussi évidemment la peinture, à travers le père de Renoir, et la peinture va elle aussi se faire une place dans le cinéma de Becker, notamment à travers Montparnasse 19, que Becker tournera en 58. Et puis, ces années 20 sont aussi les grandes années du jazz et le jeune Becker est alors passionné par cette musique autant que par le cinéma. Il fréquente le Bœuf sur le Toit qui est le temple du jazz et il va même se faire engager comme steward sur les paquebots qui traversent l'Atlantique pour aller rencontrer les jazzmen américains. Comment s'étonner dès lors que Rendez-vous de Juillet, qui est l'un des films les plus emblématiques sur la génération perdue de l'après-guerre, se déroule justement dans les boîtes de jazz de Saint-Germain-des-Prés avec la musique du légendaire Claude Luther. Alors, donc, on a notre Jacques Becker qui a plein d'ouvertures comme ça, mais on est toujours dans les années 20, et il se morfond dans l'entreprise de son père jusqu'au jour où, finalement, il démissionne et là, il court retrouver Jean Renoir qui est alors en train de faire les extérieurs de la chienne. Il lui demande de l'engager et il va devenir l'assistant de Jean Renoir. Il va bientôt être à l'origine d'un film de Renoir, Le Crime de Monsieur Lange, mais la réalisation va lui échapper justement au profit de Renoir, et là, ça va inaugurer des relations un peu tendues entre les deux hommes, où il y a une admiration et en même temps une certaine tension. Mais Becker va quand même rester assistant de Renoir. Il va souvent dire que c'était quelque chose qui a été très important pour lui, tout en regrettant de ne pas avoir été réalisateur plus jeune. Et d'ailleurs, le dernier film de Becker, Le Trou, qui raconte une évasion, sera une forme d'hommage à la grande d'illusion de Jean Renoir, dans lequel il y a aussi une évasion. Alors, en 1938, Becker parvient enfin à trouver un producteur prêt à financer son premier film, lors du Cristobal, et patatras, ça ne va pas marcher encore. Becker va encore rater son rendez-vous avec le métier de réalisateur, puisque le tournage va être interrompu, Becker va être mobilisé, et finalement, c'est Jean Stély, l'un des cinéastes connus de la période de la guerre, qui va terminer ce film. Donc Becker est prisonnier, il revient à Paris, Paris. Et là, il va quand même tourner son premier long métrage, qui est Dernier Atout, qui date de 42. Alors, c'est un film policier qui est étonnant, qui est situé dans une Amérique du Sud reconstituée sur la Côte d'Azur, et qui n'a pas manqué d'éblouir jadis un jeune cinéphile du nom de Bertrand Tavernier, qui, dans son récent voyage à travers le cinéma français, consacre un développement admiratif à Becker.
Oui, Tavernier fait une véritable déclaration d'admiration à Becker dans son documentaire. J'en profite pour signaler que Voyage à travers le cinéma français sort en DVD et en Blu-ray chez Gaumont là durant ce mois d'avril. Tavernier qui disait de la mise en scène de Becker qu'elle tend l'émotion comme on tend les muscles. La sobriété et l'épure sont ses qualités premières, et en effet, particulièrement sur la fin, Jacques Becker sera l'incarnation de cette épure.
Et notamment dans son dernier film, on va y revenir, mais pour l'instant on est sous l'occupation où Becker réalise trois films différents mais qui imposent son style avec une utilisation, je dirais, épurée, mais en même temps très très vive, par exemple du mouvement de caméra. Après Dernier Atout, on a Goupil Main Rouge, qui est un film qui montre de manière impitoyable le monde paysan, à l'époque même où le maréchal Pétain exalte la vie campagnarde. Donc c'est quand même assez étonnant, avec des personnages un peu dignes des peintres primitifs flamands. Et puis il y a donc Falbala, avec Raymond Rouleau et Micheline Prel, qui offre un passionnant documentaire sur la mode dans un Paris très très daté, puisque vidé par la guerre de pratiquement toutes ces automobiles. Donc c'est un film qui est très étonnant, parce que j'ai jamais vu un film avec des rues parisiennes aussi désertes que celui-là. Après la guerre, la Becker va tourner plusieurs comédies qui dressent un portrait de la société française de l'après-guerre, qui ne sera pas d'ailleurs sans influencer Truffaut et sa série des Antoine Doinel. Alors on a Antoine et Antoinette, Palme d'Or au deuxième festival de Cannes, et puis trois films où on retrouve Daniel Gélin, Rendez-vous de juillet, Édouard et Caroline, et puis Rue de l'Estrapade. Il y a un regard d'une vraie profondeur sur les personnages, une formidable aussi direction d'acteurs, et puis un équilibre entre la justesse psychologique des dialogues et la qualité de la mise en scène qui sont vraiment la marque de ces films. Alors en 1952, on a Casque d'or, le regard social de Becker se double de poésie, toujours porté par une caméra à l'agilité pleine d'élégance et en même temps de discrétion, surtout quand elle filme les danses. Cette rencontre tragique de Simone Signoret et de Serge Reggiani dans le Paris de la Belle Époque donne peut-être le film français qui ressemble le plus à ce que Zola ou Victor Hugo aurait filmé si leur stylo avait été une caméra. C'est vraiment un roman classique, c'est un grand roman du 19e fait pour le cinéma.
Georges, on est encore à table, tu sais. Qui c'est celle-là ? C'est moi qui devrais vous demander ça, madame. Il vous a peut-être pas dit qu'il était fiancé ? Ah, excuse-moi, je pouvais pas deviner. Salut, hein.
Marie.
À ta santé, mon brave. Putain ! Quoi ?
Allez, Marie, vaut mieux que tu t'en ailles.
Tu demandes pardon, mais je l'ai reçu hier, comme ça on est quitte.
Moins de deux ans plus tard, Becker se propulse dans un tout autre genre d'écriture en signant le prototype du film noir français, Touchez pas au Grisby. C'est le film qui va relancer la carrière de Gabin. Alors d'ailleurs, ce film est tiré d'un roman d'Albert Simonin dont on oublie trop souvent qu'il est l'auteur du scénario des Tonton Flingueur.
Oui.
Voilà. Alors après, bon, Becker va faire Ali Baba et les 40 voleurs. C'est un film pour enfants dans lequel on peut voir Fernandel répéter Sésame, ouvre-toi, avec l'accent de Marseille.
Le temps n'a pas dû faire que du bien, ce film.
Hein, c'est une curiosité.
Voilà.
Mais moi, c'est des souvenirs d'enfants. Et puis, il y a quelque chose de plus intéressant. Je trouve qu'il y a une adaptation très élégante qui remet à la mode Arsène Lupin, les aventures d'Arsène Lupin, avec Robert Lamoureux dans le rôle du gentleman cambrioleur. Il va ensuite, Becker, remplacer Max Ophuls, qui est malade, sur le tournage de Montparnasse 19, un mélodrame où Gérard Philippe incarne de façon pathétique le peintre Modigliani. Et puis donc nous allons avoir Le Trou en 1960, qui est un chef-d'œuvre, qui est adapté d'un roman quasi autobiographique de José Giovanni, qui va d'ailleurs à cette occasion passer dans le camp, si on peut dire, des écrivains,
des auteurs et des cinéastes.
Oui. Alors qu'avant il était repris de justice, il sortait de prison. Et le regard social de Becker va passer cette fois-ci par le refus d'utiliser des vedettes pour raconter l'obstination l'organisation méticuleuse, acharnée même, d'un groupe de prisonniers décidés à s'évader. C'est un quasi huis clos qui permet à Becker de promener sa caméra toujours aussi virtuose dans un espace minimal et dans un décor lui-même minimaliste, mais ça va être malheureusement le dernier film de Becker, qui va mourir prématurément à 54 ans d'une hémochromatose, une maladie héréditaire assez rare, non sans avoir travaillé jusqu'au dernier jour. Parce que Becker était perclus de froid pendant les tournages dans les souterrains du fort d'Ivry, où avaient été reconstitués les égouts de la prison de la santé. Jacques Becker devra d'ailleurs souvent laisser les rênes à son fils Jean, premier assistant, et à sa fille Sophie, script sur le tournage, ainsi qu'à son gendre, le génial chef opérateur Guilain Cloquet. Parce que Becker avait inventé une façon très moderne de filmer des histoires classiques, il était très admiré des réalisateurs de la Nouvelle Vague, qui avaient pourtant la dent dure pour ses autres contemporains, et Godard dira au moment de la mort de Becker, comme Molière, Becker est mort sur un champ de bataille inouï et terrible, celui de la création artistique.
Alors Antoine, il y a trois films donc de Jacques Becker qui ressortent en salle, sans doute les plus célèbres, les plus célébrés, Touchez pas au Grisby, Le Trou et Casque d'or, mais donc dans cette rétrospective qu'on peut découvrir à la Cinémathèque française, s'il n'y avait qu'un film vraiment à redécouvrir, peut-être mésestimé ou pas assez connu ou pas assez vu, lequel serait-il selon vous?
Alors,
choix difficile.
C'est parce que si vraiment vous avez cité quand même les chefs-d'œuvre,
oui, absolument. Voilà, c'est bien pour ça que.
Après, moi, j'ai une vraie tendresse pour Dernier atout, qui est un film très original dans le cinéma français des années 40. Et puis, bon, mais évidemment, ça reste un premier film. Et moi, j'aime beaucoup, alors que c'est un film qui est très controversé, j'aime beaucoup aussi le Montparnasse 19, le film sur Modigliani avec Gérard Philippe. Je le trouve très, 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 très étonnant. Mais vous avez le droit aussi de voir les plus ou moins comédies de mœurs avec Daniel Gélin. À mon avis, le film qui est un petit peu surestimé, même s'il est très intéressant historiquement, c'est Rendez-vous de juillet, qui est un film intéressant quand on aime l'existentialisme, le jazz et une certaine époque, mais qui en soi n'est probablement pas le meilleur film de Becker.
Voilà, donc une filmographie à redécouvrir dans les salles de cinéma, donc à travers ces trois ressorties, Casque d'or, Le Trou et Touchez pas Grisby, et bien sûr à la Cinémathèque française à travers cette rétrospective intégrale.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.